Donc Saint-Hubert, d'après la légende, alors qu'il était en train de chasser un cerf, aperçoit dans les bois du cerf qu'il était en train de chasser la croix du Christ, et là il se convertit et sa vie change de tout au tout. Il faut dire que quand le Christ apparaît dans une vie, ça change beaucoup de choses. En fait, d'ailleurs, aujourd'hui, le Christ apparaît assez rarement. Enfin, beaucoup de croyants disent voir apparaître la Vierge Marie ou d'autres gens, mais Jésus apparaît assez peu matériellement. Et d'ailleurs, dans la Bible, après l'ascension, Jésus n'apparaît jamais. Sauf à une personne, c'est à Paul, dont on a le récit, vous savez, de la conversion alors qu'il était sur le chemin de Damas. Là aussi, Jésus l'interpelle, lui parle, et la vie de Paul change. Paul est transformé, sa vie change de tout au tout. Alors bon, ces récits sont très beaux, évidemment, en tant qu'homme du 21e siècle, je ne peux pas m'empêcher de me poser, comme beaucoup, la question de la réalité objective de ces apparitions. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, ça, c'est en fait une question contemporaine. Je crois que depuis 2000 ans, ce n'est pas un problème. Et l'important dans tous ces récits, c'est ce qui a été vécu par la personne et qu'il raconte comme il l'a vécu, autrement dit. Parce que l'événement matériel est une chose et la façon avec laquelle elle est vécue, c'est autre chose. Les psychologues aujourd'hui le savent très bien. Quand des gens ne vont pas bien suite à un traumatisme infantile ou autre, la question, c'est pas tellement objectivement ce qui s'est passé, c'est la manière avec laquelle la personne l'a vécu, et c'est ça l'événement qui est même plus réel que ce qu'aurait pu filmer une caméra, autrement dit. Alors cette apparition à Paul, cette voix qui le convertit, est-ce que c'est vrai, réel ou pas? Ben écoutez, c'est compliqué, parce que ce récit, d'abord, il est trois fois dans le livre des Actes, bizarre, il le raconte trois fois, et tous les récits sont différents. Une fois il y a une voix, mais il y a de la lumière, une fois les gens entendent la parole mais ne voient pas la lumière, une fois ils voient rien mais ils n'entendent rien, enfin, c'est jamais la même chose, et donc ça semble pas très objectif. Et d'ailleurs, quand Paul parle de cet événement, il dit en 2 Corinthiens 12, « Je connais un homme qui a été enlevé au troisième ciel, et il dit, était-ce dans son corps, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Donc Paul ouvre la possibilité que cette apparition, et je dirais la même chose entre nous pour les apparitions du Christ ressuscité, hein, mais ouvre la possibilité que ces apparitions ne soient pas tant un phénomène corporel, mais que ça puisse être un phénomène spirituel, c'est-à-dire dans son esprit. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les contes et légendes, ce qui m'intéresse justement, c'est ce qui est vécu par les gens, et c'est ce que je peux vivre moi, et c'est ça qui me semble intéressant. Et du coup, si je vois les choses sous cet angle, la légende de Saint-Hubert, en fait, personne n'y croit, d'ailleurs, tout le monde appelle ça la légende de Saint-Hubert, c'est bien pour dire, c'est sûrement pas vrai. Eh bien si, je pense que là, il y a une piste pour dire, ça peut être vrai, parce qu'en fait, on peut voir apparaître le Christ dans ce que l'on est en train de faire, et il faut dire comment. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais je vous dirais la même chose. Je vous dis, finalement, pour moi, c'est un peu pareil. Je peux dire que le Christ m'est apparu. Alors, vous êtes en train de douter de ma santé mentale, mais en fait, non, il m'est apparu, pas matériellement, bien sûr. Mais si je n'avais pas rencontré le Christ dans ma vie, je ne serais pas là en train de vous parler. C'est évident. Et je peux même vous dire la date, le lieu et l'heure. C'était le 20 octobre, 1979, quelques années, pendant un cours de mécanique générale en train de multiplier des matrices 16-16. Bon, il y a plus distrayant comme activité, et ça peut expliquer que mon esprit était un peu vagabond. Et en tout cas, à ce moment-là, je ressens en moi un appel pressant à mettre ma vie au service de l'Évangile et à en témoigner. J'essaye de parler comme à des gens rationnels, hein, et je pourrais dire que finalement, j'ai entendu comme Paul, le Christ, et j'ai vu comme Saint Hubert, j'ai vu la croix du Christ dans ma multiplication de matrices. Bon. Alors, mais cela dit, qu'est-ce que ça change dans une vie de voir apparaître le Christ, justement? Alors, on a deux témoins, qui sont Saint Hubert, dont on connaît peu de choses, et puis Paul, dont on a ce récit dans l'Évangile. Et ces deux témoins dont je parle ont eu la chance d'être objet d'apparition. Et je dirais moi, en plus, comme dirait Paul, comme l'avorton, qui a eu la chance de vivre, j'allais dire, une vocation à l'ancienne. Bon, beaucoup de pasteurs ou de prêtres aujourd'hui ne vivent pas les choses d'une façon aussi spectaculaire, je dirais, mais en tout cas, j'ai eu la chance de le vivre comme ça. Mais il ne faudrait pas croire que c'est là le modèle nécessaire pour voir apparaître le Christ dans sa vie. Et donc, il ne faudrait pas attendre en se disant, ben, Paul a eu la chance que Jésus lui parle, ben, je vais attendre, si Dieu veut me parler, il me parlera, et si veut, la croix veut m'apparaître, elle m'apparaîtra. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que, en fait, cette idée d'apparition concerne tout le monde, et nous concerne tous, pas forcément apôtres, ou évêques, ou prêtres, ou pasteurs, mais qu'il s'agit d'être capable d'entendre quelque chose dans notre cœur, d'entendre quelque chose qui nous parle dans notre cœur ou dans notre conscience, d'entendre une voix qui peut changer notre vie. Et il s'agit aussi de voir ce que peut-être d'autres ne voient pas, mais de voir le monde différemment, autrement dit. Comme Saint Hubert voit le Christ dans les bois du cerf, et il voit, on pourrait dire que nous pouvons de la même manière voir le Christ dans notre activité. Bon, Saint Hubert était chasseur, peut-être que vous êtes plombier, le plombier, il verrait la croix du Christ dans les tuyaux du chauffage, voilà, et si vous êtes si vous dirigez un cirque, vous pouvez voir la croix du Christ derrière les lions, ou d'autres choses, j'en sais rien, chacun peut voir la croix du Christ apparaître là où il est. Et ça m'intéresse, ça me donne plusieurs leçons. D'abord, que dans ces deux cas, de Paul et de Saint Hubert, Christ leur apparaît dans leur activité quotidienne. C'est-à-dire que Paul, il est en train d'aller vouloir persécuter les chrétiens, bon, c'était son projet, et c'est en chemin qu'il voit le Christ. Saint Hubert aimait bien la chasse, c'est pendant qu'il chassait qu'il voit la croix. Autrement dit, c'est à chaque fois dans son activité quotidienne. Et on ne dit pas Paul persécutait les chrétiens, et puis tout à coup il va au temple, à la synagogue, et là il prie, il lit la Bible, et tout à coup Dieu lui dit « arrête ». De même, Saint Hubert voit la croix du Christ, mais c'est pas alors qu'il faisait une retraite sur le mont Athos ou ailleurs, je ne sais pas où il était d'ailleurs, dans un monastère, alors qu'à genoux en prière et en méditation, tout à coup quelque chose lui apparaît. C'est dans son activité, quand il était en train de faire ce qu'il faisait quotidiennement. Ça m'intéresse, parce que ça montre l'intégration du religieux dans la vie quotidienne. Et ça me touche beaucoup d'arriver à voir comment on peut intégrer, si vous voulez, le religieux dans sa vie quotidienne et comment on peut intégrer dans ses activités, quelles qu'elles soient, comment on peut y intégrer, trouver une place pour la croix du Christ là-dedans et pour la parole de l'Évangile. Et quand on voit le Christ à travers ce que l'on fait, eh bien ça change tout. C'est une expérience à faire. Parce que du coup, on est invité peut-être à relire son activité autrement, à la faire autrement, et à relire le monde autrement. Autrement dit, de voir comment on peut essayer d'apprendre à regarder le monde à travers les lunettes filtrantes du Christ et voir le monde avec un autre regard. Mais en fait, si on, je vous dis, on ne sait pas grand-chose sur la légende de Saint Hubert, mais si on regarde la plupart des tableaux qui représentent cette légende formidable de Saint Hubert qui voit la croix du Christ dans les bois du cerf, eh bien, la plupart du temps, cette croix apparaît vide. C'est-à-dire qu'il ne voit pas, je vous ai dit, il voyait apparaître le Christ, non, il voit apparaître la croix du Christ, ce n'est pas Jésus, il voit apparaître la croix. Alors ça me plaît parce que vous savez que dans la tradition réformée, je ne dis pas protestante, mais réformée, on met des croix, mais les croix sont toujours vides. On ne met jamais Jésus sur la croix. Les luthériens mettent des crucifiés sur la croix, mais nous, non. D'ailleurs, vous voyez, il y a des croix un peu partout, mais il n'y a jamais Jésus dessus. Voilà, la croix est toujours vide. Et ça, j'aime beaucoup cette tradition de la croix vide. Parce que ça veut dire qu'on ne tourne pas son regard vers un supplicié. On ne tourne pas son regard vers la souffrance ou vers la mort, mais on tourne son regard vers une bonne nouvelle, qui est celle de la résurrection. Et j'aime mieux, personnellement, me tourner vers l'idée de la résurrection que vers l'idée du Christ sanguinolent en train de crever sur sa croix. Bon, c'est très gentil que Jésus soit mort sur une croix pour nous, mais moi, si je suis enthousiaste à l'idée de l'Évangile, c'est pas à me complaire dans les souffrances, dans les caillots de sang, et les choses comme ça. C'est la résurrection, c'est la victoire sur la mort, c'est justement cette bonne nouvelle que la mort a été en échec. On met sur une croix et la croix, elle n'attrape rien. Jésus échappe à la mort, il échappe à ce projet funeste de ses opposants qui ont voulu le faire taire en le tuant. Jésus, il sort de là, il échappe à la mort, il échappe de la croix, il échappe de la violence, de la méchanceté, de la haine, de la jalousie et de tout. Et la croix est vide. Donc tous ces pauvres imbéciles qui se sont dit « on va crucifier Jésus, ça va arrêter tout », eh bien, ils ont perdu. Voilà, la croix est vide, elle ne sert à rien et elle devient simplement le symbole de celui qui est ailleurs. Alors Jésus, donc, c'est ça pour moi la bonne nouvelle, c'est la résurrection du Christ. Alors Jésus est ressuscité, oui. Était-ce dans son corps? Était-ce sans son corps? Comme dirait Paul, je ne sais, Dieu le sait. Gérez ça à votre manière, mais il est ressuscité, c'est la base de tout. Et puis, cela dit, vous me direz, bon, à ce moment-là, autant rien mettre du tout, parce qu'il reste quand même la croix. Et la croix, même si elle est vide, nous rappelle quand même la mort. Eh bien, c'est peut-être pas mauvais quand même de le savoir. Parce que la vie passe quand même nécessairement un peu par une certaine forme de mort. Et le message, c'est que la mort elle-même peut, d'une certaine façon, devenir positive et peut, dans certains cas, donner la vie. Je ne ferai pas l'apologie de la chasse, mais je dirais qu'en tout cas, quand un lion mange une gazelle, la gazelle meurt et c'est très dommage pour elle, mais ça donne la vie au lion. Et donc celui qui mange un gibier, la mort donne la vie, c'est comme ça. Et puis le lion, il mange la gazelle, mais ensuite le lion lui-même va mourir et ça va nourrir les vautours. Et les vautours vont mourir et ça va donner manger aux petits vers. Et les petits vers vont mourir, ça va faire de la terre, ça va faire des plantes, ça va faire des gazelles qui vont manger les plantes, ça va faire des lions qui mangent les gazelles. Vous connaissez l'histoire. Et donc en fait, la vie passe évidemment par la mort, c'est comme ça. Elle peut passer par la mort, sauf quand la mort ne mène à rien. Je dirais la Shoah, c'est des morts... C'est quoi le but? Il n'y a rien derrière. Donc ça, c'est terrible. Mais la mort peut être source de vie. Et d'ailleurs, les biologistes nous disent la même chose. C'est qu'en fait, l'évolution n'a été réellement possible dans le monde qu'à partir du moment où la mort est apparue dans le cycle biologique. C'est parce que les êtres vivants ont acquis la mortalité qu'ils ont pu évoluer beaucoup plus vite. Si vous voulez, un caillou, ça meurt pas, mais ça évolue pas vite. Bon, voilà. Et en fait, un être vivant, le vivant évolue très vite parce qu'il meurt et il se reproduit d'une façon un peu différente. Et nos enfants sont peut-être mieux que nous, j'espère. Et ainsi, ça peut progresser beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas de cela. Et donc, sans la mort, il n'y aurait pas eu d'évolution biologique au point tel que vous puissiez être là. Et sans la mort qui est apparue dans l'évolution biologique, il n'y aurait même simplement, notre monde ne serait qu'un monde minéral ou bêtement végétal, et en tout cas sans la mort qui est apparue dans le cycle de la vie, il n'y aurait pas d'amour. Voilà, donc il faut quand même le savoir. Alors je ne dis pas ça pour avoir des pensées morbides, mais peut-être que pour bien vivre, il faut assumer une certaine part de mort, ce savoir mortel, et puis... C'est là où je veux en venir, vous allez comprendre peut-être, de dire c'est que vivre, justement, c'est pas tellement mourir, mais c'est savoir qu'on doit laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà. On doit laisser la place à une génération suivante. Et donc vivre, c'est transmettre. Et que sans cela, on est une branche morte. et transmettre, pas forcément à ses enfants dans la chair, hein, ça peut être évidemment un lieu de transmission, mais ce n'est pas le seul. Et qu'on ne peut pas vraiment vivre sans accepter de mourir un peu pour ce que l'on fait, pour les autres, ou pour laisser la place à d'autres. Alors je pense à, je dirais, à la mère de famille qui dit « mais je me tue à la tâche à tenir ma maison » ou au père de famille qui se tue aussi à la tâche à tenir aussi la maison ou à travailler, ou au professeur qui dit « mais je m'épuise à essayer de vous enseigner » et celui qui ne se donne pas, d'une certaine façon, ne donne rien. Et donc la mort, le fait que je sais que moi, je ne serai pas toujours là, eh bien ça me responsabilise. Et ça me fait me poser cette question ultime à laquelle j'arrive. Ce que je fais, ça mène à quoi? Ah oui, ça, c'est quand même une question très forte. Hein. Ça mène à quoi? Et ça apporte quoi au monde? Et ça donne quoi au monde qui reste après moi? C'est pas si simple, mais c'est néanmoins, je crois, une bonne question. Parce que, effectivement, la mort n'annule pas la vie. Au contraire, je vous ai dit, la vie se développe par la mort, mais elle donne une autre manière de vivre et de transmettre la vie. D'ailleurs, c'est un petit paradoxe, finalement, qu'on peut dire qu'elle a, c'est que c'est le chasseur Saint-Hubert, qui est, dont le métier est de tuer, qui voit une croix dans le cerf, qu'il allait tuer, donc le croix signe de mort, mais une croix vide, qui lui montre que la vie peut-être d'une autre manière, parce que la vie n'est pas simplement la vie animale et la vie physique, mais la vie est bien plus que le physique. Parce que sinon, celui qui aurait réussi, par exemple, à tuer Hitler lors d'un attentat, il aurait été un assassin? Non, il aurait été un héros, un libérateur. Ça veut dire que si notre activité, quelle qu'elle soit, est sans but, c'est juste du gâchis. Et il faut trouver un sens, donner un sens. Et voir la croix dans l'activité que l'on mène, quelle qu'elle soit, une fois de plus, c'est se rappeler que la seule question, c'est à qui, moi, je donne ma vie. Et la vie, je vous l'ai dit, c'est donner, c'est aimer, c'est partager, c'est transmettre, c'est aider et c'est accompagner. Et chaque fois que, dans mon activité, quoi que je fasse, il y a ces dimensions d'amour, de don, de générosité, de compassion peut-être aussi avec l'autre, d'accompagnement, eh bien mon activité, quelle qu'elle soit, devient la plus belle des choses et devient le plus beau des actes religieux. Parce qu'un acte religieux, ce n'est pas d'aller tout seul dans son coin pour prier dans une église ou un temple. Un acte religieux, c'est dans la vie de tous les jours, la manière avec laquelle, en agissant avec mes frères, mes sœurs, mes proches, je donne cette dimension spirituelle et autre à ce que je fais. Et c'est ça qui est le propre même de l'acte religieux. Mais bon, je m'égare un peu parce que je vous ai promis que la croix ne parlait pas de la mort et je vous parle que de ça. Mais néanmoins, mettre sa vie sous le signe de la théologie de la croix. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la théologie de la croix, mais mes frères luthériens aiment beaucoup la théologie de la croix, et ils sont passionnés par ça. Et il y a quelques années, c'était il y a 15 ans, je devais embaucher un pasteur pour travailler avec moi. J'avais un jeune que j'aimais beaucoup et je lui ai dit « écoute, j'aimerais que tu viennes travailler avec moi ». Mais il m'a dit « oh moi, tout ce que j'aime, c'est la théologie de la croix ». Je lui ai dit « bon, alors ça va être limité, j'ai choisi quelqu'un d'autre ». Parce que la théologie de la croix, je ne comprends pas trop. Mais j'ai essayé de réfléchir pour vous. Mettre sa vie sous la théologie de la croix, et qu'est-ce que veut dire pour nous la théologie de la croix? Alors au catéchisme, on nous enseigne que la croix, ça veut dire « par la croix du Christ, je suis pardonné et je suis sauvé ». Il nous pardonne nos péchés, il nous libère. Bon, mais ça c'est du langage de sacristie. Pour un français contemporain, je dirais quoi? Eh bien, je dirais la même chose, mais autrement. Je dirais que la croix me rappelle une chose, c'est la générosité incroyable de Jésus qui est allé jusqu'au bout de sa mission et qui est allé jusqu'à donner sa vie pour que nous ayons accès à son enseignement. Et ça, c'est pour moi très touchant parce qu'en fait, il a nous avons, j'ai été, vous avez chacun de vous, été jugé digne d'un magnifique cadeau, de quelqu'un qui a dit, lui, moi, toi, 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 eh bien, je suis prêt à mourir pour toi, pour que tu aies accès à cette parole extraordinaire. Et ça, c'est pas évident, c'est un très beau cadeau. Paul dit ça dans une de ses épîtres, il dit, c'est incroyable, Christ a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Il dit, à peine donnerait-on sa vie pour un juste ? C'est vrai, mais pour un pécheur. Et donc, pour moi, Jésus dit, ben écoute, tu vaux quelque chose et je suis prêt à te donner ma vie. Et ça, ça me remplit de joie et de reconnaissance, je pourrais dire. Et justement, c'est tout le contraire de la culpabilisation. Jésus ne dit pas, t'es mauvais, t'es pas bon, etc., mais moi je vais te sauver parce que je suis meilleur que toi. Il dit pas ça. Il dit, je sais pas, tu es comme tu es, mais tu es tellement formidable et je t'aime tellement que je te donne ma vie. Et donc c'est l'anti-culpabilisation. C'est au contraire de dire que nous sommes acceptés, aimés, sans question et sans condition. C'est ce que dit encore l'évangile de Jean. Vous savez, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus ne vient pas nous aimer par une sorte de sentiment de supériorité en disant, c'est bien, misérable larve, moi je vais te sauver parce que je suis le Fils de Dieu quand même. Il nous aime. Eh bien ça, c'est quand même, voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est formidable. Vous êtes acceptés, vous êtes aimés, et dans notre activité de tous les jours, voilà ma première recommandation, sentez-vous heureux, aimés, acceptés, pardonnés, libérés, et acceptez de vous dire que vous pouvez faire ce que vous faites en étant en paix avec vous-même. Ben déjà, quand quelqu'un se sent bien, il y a déjà plus de chances qu'il soit dans le monde quelqu'un d'assez positif et rayonnant. Bon, donc c'est déjà un bon début. Et ensuite, mon deuxième point sur la théologie de la croix, c'est que Jésus, justement, moi je trouve que c'est quand même un super exemple. Voilà. J'allais dire, Jésus, je vous ai dit, il a fait preuve d'une générosité sans borne en acceptant d'aller jusqu'à se sacrifier pour nous. Et en fait, je suis super fier de mon Sauveur, de mon Seigneur. Jésus, il était vraiment top, en fait. Ce type, il était généreux, c'est vrai. Et en plus, il était pacifique. Il n'a tué personne, il n'a jamais fait preuve de violence. Il était malin comme un singe. On le voit plusieurs fois, les pharisiens essayent de le coincer, tac, ils trouvent des ruses. Il était futé comme tout. Et en même temps, plein de douceur, plein d'accueil, de tolérance pour tous ceux que tout le monde rejetait en disant, lui, il n'est pas digne de ceci, cela, accueillant les uns et les autres, libérant, attentionné, attentif, généreux, extraordinaire, plein de toutes les qualités du monde. Et moi, je trouve que, voilà, Jésus est formidable. Vous pouvez même dire, mais vous devriez dire qu'il est Dieu. Je dis ce que vous voulez. Mais en plus, Jésus, c'est vraiment, vraiment un type super. Voilà. C'est déjà pas mal. J'ai un Seigneur qui est un type dont je suis fier. Et je me dis, ben après tout, voir tout ce que je fais à travers l'exemple et l'enseignement du Christ, c'est dire, finalement, Jésus ne nous demande rien d'autre que de dire, écoutez, tout ce que j'ai dit, ce que je suis, eh ben intégrez-le dans votre vie, quoi. Mettez-le comme un petit logiciel système en plus dans votre existence. Vous faites des activités, du travail, du loisir, et en plus intégrer ce petit plugin du Christ qui est justement cette générosité et cette bonté. Et alors, cette composante de toute notre activité permet de voir les choses autrement. Quand on voit toute chose, la croix du Christ à travers ce que l'on fait, ça permet de le vivre autrement, de le vivre à partir de l'exemple du Christ, de ce qu'il a démontré, de ce qu'il a prêché, et de se dire comment est-ce que je peux faire mon activité, si profane qu'elle soit, avec, où est cette composante évangélique du pardon, du don, de la générosité, de l'amour, de l'accueil, de la bonté, du partage et de l'attention à l'autre. Et quand on met ces petits ingrédients-là dans la cuisine de notre vie, eh bien, franchement, ça change tout. Ça change tout. Et ça, c'est un sacré message de vie, je crois. Ça change tout parce que, je vous l'ai dit, ça transforme toute activité, même profane, en acte religieux. Et si on fait cela, eh bien, on peut contribuer à sa mesure, à changer le monde. et ça peut donner du sens à tout ce que nous faisons, et voir la mettre la croix du Christ dans tout ce que nous faisons, eh bien, ça donne du sens à notre vie aussi, et ça nous donne une joie infinie. Amen.